Bonjour.
Catherine Stengel, cette année, pour cette journée, l'accent est mis sur la contraception non hormonale. Avant de s'y intéresser, est-ce qu'on fait un peu d'histoire peut-être ? Pour beaucoup, la contraception, c'est l'arrivée de la pilule dans les années 60, mais la contraception, c'est beaucoup plus ancien. Est-ce que finalement, de tout temps, on a tenté de contrôler les naissances ?
Eh oui, je pense que vous le dites très bien. La contraception, on peut dire, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire la tentative d'éviter des grossesses à certains moments ou avec certaines partenaires, par exemple, amener les hommes et les femmes à utiliser des moyens très variés, dont certains qu'on connaît encore maintenant, comme par exemple ce qu'on appelle le coït interrompu, éviter de mettre du sperme dans le vagin en se retirant à un certain moment. C'est une méthode qui est très ancienne et qui est encore pratiquée aujourd'hui.
Et justement, dans les méthodes très anciennes, il y a des premières traces qui remontent même à l'Égypte ancienne, avec tant des premiers préservatifs que, attention, des bouchons à base d'excréments séchés d'alligator.
Oui, ça c'est surprenant quand on s'imagine que les femmes se sont mis dans le vagin des produits de toutes sortes dont vous mentionnez, voilà, des excréments d'alligator, mais aussi des cires, des graisses, des produits végétaux, dont on attendait un effet sur le sperme, mais aussi un effet de bouchon, d'éviter le passage, donc une sorte de barrière chimique.
Alors aujourd'hui, les méthodes de contraception sont nombreuses, hormonales ou pas. Je crois que l'alligator et la crotte d'alligator, on a arrêté. Quelles sont finalement les questions à se poser au moment de choisir une méthode de contraception ? Les critères de choix finalement qui doivent impérativement entrer en jeu pour que ça soit une bonne méthode de contraception ?
Pour qu'une méthode de contraception soit bonne, je dirais qu'il faut que la femme l'utilise ou l'homme l'utilise. Donc, il faut que cette méthode, elle convienne aux personnes. Donc, ensuite, on a par exemple des critères autour de l'efficacité. Parfois, on ressent le souhait d'avoir une méthode très efficace. On a des méthodes plus ou moins efficaces. Et on a aussi des contre-indications. On le voit avec les méthodes hormonales. On a des contre-indications à certaines méthodes. Donc, parfois, on a une restriction de choix. Et ensuite, ça dépend aussi de notre vie relationnelle et sexuelle. Imaginons une personne qui a peu de relations sexuelles, peut-être qu'elle va opter plutôt pour une méthode ponctuelle comme le préservatif parce qu'elle ne va pas prendre une pilule chaque jour pour avoir peu de relations. Donc il y a toutes sortes de critères qui dépendent de la personne, de ses relations, de sa santé aussi.
Est-ce que le coût, c'est quelque chose que les personnes qui viennent vous consulter au planning familial évoquent souvent ? Parce qu'on en parle beaucoup du coût de la contraception.
Oui, pour une partie des gens qui viennent chez nous, ça peut être un obstacle, en particulier quand il s'agit de payer d'une seule fois le prix d'une contraception à longue durée. Donc les méthodes qui sont actuellement les plus efficaces sont les méthodes à longue durée, c'est-à-dire un dispositif intra-utérin ou un implant. Et ces méthodes demandent un investissement. Finalement, on doit payer au départ, même si après, sur la durée, le prix n'est pas très élevé. Mais pour certaines personnes, c'est un obstacle.
Est-ce qu'il y a des moyens de contraception qui sont remboursés ?
Actuellement, non. Dans la contraception générale, on peut parfois obtenir un dispositif intra-utérin à la progestérone pour une indication médicale. Donc, il y aura à la fois un effet sur la santé, c'est-à-dire diminution des saignements, et aussi un effet sur la contraception. Et on pourrait aussi essayer d'obtenir une stérilisation, donc méthode définitive, dans certaines situations où il y a des problèmes de santé qui pourraient être aggravés par une grossesse.
Alors, l'annonce des primes d'assurance maladie est tombée en début de semaine. Et puis, évidemment, comme chaque année, c'est un peu la soupe à la grimace. Catherine Stengel, le remboursement de la contraception, pour vous, c'est un combat à mener ?
On a déjà fait au niveau national un certain nombre de tentatives de faire entrer le remboursement de la contraception par la caisse maladie dans les listes qui mentionne les médicaments remboursés. On se rend compte en Suisse que, justement, les coûts de la santé sont des sujets difficiles. Et Moi, je privilégierais maintenant de mettre l'accent sur l'accès de certains groupes de la population. Par exemple, imaginons des jeunes pour qui la contraception, utiliser un moyen de contraception se fait dans la discrétion, par exemple, qui ne peuvent pas en parler autour d'eux, qui ont besoin d'un moyen de contraception, donc aussi peut-être d'une consultation médicale. Là, on pourrait imaginer qu'il y ait un soutien pour les jeunes et aussi pour certains groupes de la population pour qui c'est vraiment une charge de se payer un moyen de contraception.
Est-ce que il y a donc un combat, on vient d'y répondre, à mener pour le remboursement de la contraception, mais est-ce qu'il y a aussi un combat à mener pour que la contraception ne soit plus, parce qu'on l'entend encore trop souvent aujourd'hui, que ce n'est qu'un problème de femmes. Est-ce qu'il y a aussi un combat à mener à ce niveau-là?
Alors, la contraception, pour moi, concerne les hommes et les femmes, puisque la conception d'un enfant, si cet enfant vient au monde, va concerner les deux personnes. Peut-être le combat à mener, c'est sur la diffusion des méthodes, le développement de méthodes de contraception adaptées aux hommes. Donc on voit qu'on entend régulièrement dans la presse qu'on aura bientôt une pilule pour hommes. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc, on peut observer que le développement des moyens de contraception à l'intention des hommes est très lent et se fait de façon confidentielle, qu'on n'y met sans doute pas énormément de moyens. Donc, la seule méthode actuellement à disposition pour les hommes, c'est le préservatif, voire la vasectomie. Donc, ça, c'est aussi peut-être un moyen dont on pourrait parler un peu plus, puisque pour les hommes qui ont eu le nombre d'enfants qu'ils souhaitaient dans leur vie, c'est un choix qui leur permet d'être à l'abri finalement d'une paternité.
Catherine Stengel, la contraception hormonale, on en a déjà parlé, à mauvaise presse aujourd'hui. Renoncer à ce type de contraception, à des moyens les plus sûrs, c'est quelque chose qui est difficile à assumer.
C'est bien ce que vous dites, c'est parce que ces moyens sont considérés comme les plus sûrs que les femmes qui choisissent d'autres moyens qui sont réputés moins sûrs peuvent être parfois critiquées parce qu'on leur dit, voilà, vous, il existe des moyens très efficaces et puis vous utilisez ces méthodes naturelles, etc. Vous prenez le risque d'être enceinte. Donc, il y a un discours, à mon avis, une sorte de pression sur les femmes pour qu'elles utilisent les méthodes réputées les plus efficaces. Alors que parfois, c'est pas leur choix ou ces méthodes parfois leur conviennent pas, elles ont essayé, elles ont eu des effets indésirables, des inconvénients, et puis où elles s'inquiètent. Et puis, on voit, depuis les discussions qu'on a eues il y a quelques années sur les effets secondaires de la contraception hormonale, des femmes qui ne veulent plus utiliser d'hormones.
Alors, on l'a dit, il y a beaucoup de méthodes contraceptives différentes. À chaque personne, sa méthode qui va lui convenir. Est-ce qu'on peut aussi dire à chaque âge, sa méthode, on ne va pas conseiller la même chose à une femme de 17 ans qu'à quelqu'un de 40?
Alors, même si on conseille ou pas, on voit que le parcours contraceptif, c'est souvent commencer avec des préservatifs. Ensuite, la pilule ou une méthode hormonale, et puis un dispositif intra-utérin un peu plus tard. C'est ce qu'on observe, c'est un peu schématique. Mais ça n'empêche qu'on peut très bien proposer maintenant, par exemple, un dispositif intra-utérin au cuivre comme premier moyen de contraception pour une jeune femme. Donc, il y a la contraception de chaque âge, aussi en fonction des étapes de la vie, de la fertilité, etc. Mais on peut aussi réfléchir quand on a des changements dans sa vie et changer de méthode, par exemple choisir le préservatif à un certain moment, comme je disais avant, si on a à une certaine période peut-être moins de relations sexuelles.
L'auto-observation, se connaître son cycle et s'abstenir lors de la période de fertilité, ça c'est aussi une alternative aux méthodes hormonales?
Alors, dans les alternatives, on peut dire aux méthodes hormonales, on a les préservatifs pour les hommes et pour les femmes, le dispositif intra-utérin au cuivre et ces méthodes dont vous parlez, c'est-à-dire des méthodes où on observe les signes du cycle pour évaluer précisément le moment de l'ovulation et décider soit de renoncer au rapport, soit d'utiliser un moyen supplémentaire comme le préservatif à certaines périodes du cycle. Alors, ces méthodes, elles ont été développées depuis les années 60 aussi, où on a associé la connaissance de plus en plus fine des signes qui montrent l'évolution du cycle. Donc la température, l'évolution des sécrétions du col de l'utérus, l'évolution de la position du col de l'utérus et d'autres signes qui permettent aux femmes qui font ces observations de façon régulière de connaître leur cycle. C'est des méthodes d'ailleurs qui permettent aussi de prévoir une grossesse,
quand de favoriser
la grossesse, et aussi des méthodes qu'on peut utiliser en prévention de la grossesse.
Alors, c'est des méthodes quand même qui sont très laborieuses. C'est pour ça qu'il y a la technologie qui s'est invitée justement à ce calcul du cycle pour connaître exactement où on en est pour avoir ou pas des enfants.
Alors la technologie, il y a du bon et du moins bon. On a des applications qui se basent sur des méthodes comme la méthode du calcul, qu'on appelait méthode Ogino aussi, développée par un japonais du nom de Ogino au début du siècle passé. Et cette méthode des calculs, elle est imprécise. Donc si ces applications utilisent cette méthode-là pour prévoir le moment fertile du cycle, ben c'est trop imprécis. Par contre, on a aussi des applications qui utilisent toutes ces connaissances symptothermiques, c'est-à-dire sympto pour les symptômes et thermiques, parce qu'on a appris que la température du corps varie selon la période du cycle, c'est-à-dire avant l'ovulation et après l'ovulation. Donc si l'application utilise toutes ces connaissances, on arrive à avoir des méthodes qui deviennent fiables.
Finalement, la méthode la plus fiable, vous le disiez, Catherine Stengel, c'est celle sur laquelle le couple se met d'accord.
Alors, on plaisante en général en disant que la méthode la plus fiable, c'est l'abstinence.
C'est un peu moins drôle.
Voilà, un peu moins drôle. C'est pas toujours très crédible. Et donc, la méthode la plus fiable, c'est toujours celle qui est utilisée. C'est-à-dire, il vaut mieux n'importe quelle méthode que pas de méthode du tout. C'est pour ça qu'on dit que la méthode, c'est celle que la femme, l'homme, le couple choisit et accepte. Ensuite, au niveau de la connaissance médicale, les méthodes les plus sûres restent ces méthodes à longue durée d'action que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire les dispositifs intra-utérins ou les implants. Donc des méthodes où notre comportement n'interagit pas avec l'efficacité de la méthode.
Catherine Stengel, on vous remercie beaucoup d'être venue parler contraception avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la chef du service de santé sexuelle de Neuchâtel. On mettra les différents liens utiles tout à l'heure sur la page de Format 3. Belle journée.
Merci pour vous aussi.